commencer. Donc, bonsoir à tous, bienvenue à l'espace Mendès France. Donc, ce soir, dans le cadre de l'exposition « Quand la mer se déchaîne », nous avons donc invité M. Rodrigo Pedreros pour nous faire une conférence sur la tempête Xynthia. Donc, bien sûr, ça rappelle des souvenirs à chacun d'entre nous. Et M. Pedreros donc, travaille donc, au BRGM à Orléans. Il est expert donc, dans les risques côtiers. Et il a particulièrement donc, travaillé à l'élaboration d'un rapport qui a été présenté donc, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Et puis, donc, là, il se propose de vous rappeler donc, le déroulement et les conséquences de cette tempête. Et bien sûr, comme à notre habitude, suite à son intervention, vous pourrez poser des questions. Mais s'il y a des questions qui vous viennent au cours de sa présentation, M. Pedreros me dit qu'il était prêt à répondre également au fur et à mesure. Donc voilà, je vais lui laisser dès à présent la parole et je vous dis à bientôt.
Merci, bonsoir. Merci d'être nombreux donc, ce soir. Donc, je suis Rodrigo Pedreros, je suis océanographe. Donc, comme ça a été dit, je suis spécialiste des risques côtiers. Donc, dans les risques côtiers, il y a un distinct de la submersion marine et le recul de trait de côte. Voilà, donc, la submersion marine peut être causée par les tempêtes. On va en parler ce soir. Mais c'est aussi causé par les tsunamis, par les cyclones. Donc, je travaille tout ce qui est submersion marine, donc... Et je travaille sur l'aspect donc modèle numérique, mathématique, sur les ordinateurs. Mais aussi, je fais du terrain. Donc, c'est le cas pour Cynthia. Donc, une semaine après, on a fait une semaine de terrain. C'est aussi vrai pour des tsunamis, comme par exemple pour Sumatra 2004. On s'est déplacé, etc. Voilà. Donc, je travaille dans une équipe à Orléans qui s'appelle, c'est l'unité risque côtier et changement climatique. Nous sommes une vingtaine de personnes. Ça, c'est dans un département qui s'appelle Direction de risque et prévention, DRP. Dans cette unité risque côtier et changement climatique, donc sur la vingtaine de personnes, c'est assez pluridisciplinaire, en fait. Il y a encore des géologues au BRGM. Il y a aussi des géomorphologues. Il y a des mécaniciens des fluides, des statisticiens, deux océanographes, des mathématiciens. Il y a un palais assez important, assez... mais pluridisciplinaire. Et c'est nécessaire, en fait, pour traiter ces aspects-là. Et nous collaborons, évidemment, avec au BRGM. Il y a aussi une unité qui travaille sur le risque sismique et volcanique. Donc, on travaille beaucoup avec eux pour tout ce qui est donc tsunami voilà, généré par des séismes ou des mouvements de terrain sous-marins. On s'appuie aussi sur les directions régionales donc, que possède le BRGM. Donc on travaille beaucoup là où il y a des problèmes, donc, soit avec l'Aquitaine, à Marseille, à Montpellier, aussi beaucoup à La Réunion, justement. Il y a pas mal d'actualités, en fait, avec les cyclones des débuts d'année et la série tempête qui s'abat actuellement sur nos côtes. Voilà. Donc je me suis présenté et... Donc, je vais vous faire cet exposé comme je reviens. Juste, pour cet exposé, j'ai travaillé sur différents travaux de recherche que je vais nommer au fur et à mesure. Donc, travaux nationaux, européens, donc, où on a participé, ou si, par exemple, l'Université de la Rochelle a pu prendre part. Il y a des rapports publics donc, qui ont pu être faits par des historiens, quoi, justement, pour prendre un peu de recul sur les tempêtes, le rapport, fameux rapport qu'on a fait rapidement après la tempête qui a été assez lu. Il y a aussi des rapports qui sont sortis au Sénat et à l'Assemblée nationale, et après il y a d'autres choses plus récentes qui sont compilations de tout ça, en fait. Voilà, donc je dis dès maintenant, je ne vais pas pouvoir tout nommer. Je ne vais pas être exhaustif en une heure, donc je vais certainement oublier, vous connaissez d'autres sources, je m'excuse dès maintenant. Voilà. Voilà donc comment ça va se dérouler, cet exposé en fait. Donc je vais rappeler la chronologie et les processus en jeu donc, lors de Cynthia, les conséquences donc, en tant que physique comme structurelle, et les coûts, on va parler, même si ce n'est pas du tout ma spécialité. Je vais juste évoquer ces petites biblios que j'ai pu faire. La question qu'on se pose suite à Cynthia, est-ce que c'est exceptionnel ou pas? Bon, j'imagine que vous avez une idée ici, on va en parler. Et après, la partie 4, c'est comment, depuis Cynthia, qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce que ça a changé? Et comment est-ce qu'on a pu faire pour diminuer donc, le risque submersion? Donc ça, je décline ça dans l'alerte, la prévision, la prévention, voire la relocalisation. Voilà. On commence. Là, donc ici, à l'image de gauche, je vous montre donc la trajectoire de Xynthia, donc qui s'est formée bien au large du Portugal et qui a remonté la côte, donc en trajectoire, c'est des gens vers le nord-est, donc par la pointe ibérique. Après, il a traversé donc entre la nuit du 27 au 28 février le golfe de Gascogne. Voilà. Donc ici, vous avez un champ de fond que j'ai pu tracer avec des données américaines ici. Là, donc, c'est le 4h, à 4h le matin. Donc, c'est... Ici, ça, ces points correspondent donc au centre de la tempête. C'est là où la pression est minimale. Donc ici, à 4 heures, vous voyez, le centre était là. C'est là que les vitesses sont les plus faibles. Et on retrouve une forme comme ça, on va dire anticyclonique. C'est comme un cyclone avec anti-horaire. D'accord ? Et donc, cette forme-là, est-ce que j'ai des mots avec la souris ? Voilà, check. Ça fait que quand ça passe, il y a toute cette partie qui se situe ici, qui va pousser, donc qui va générer des vents qui vont s'orienter vers la côte. Ils vont pousser les masses d'eau vers la côte. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est une signature, donc les différents paramètres qui caractérisent cette tempête. Donc, on va commencer par les paramètres simples, ici à gauche, donc la pression atmosphérique. Minimal, hein. Ça c'est mesuré à La Rochelle, donc 977 hectopascales. En mer, la minima c'était 969 hectopascales. C'est pas bas, parce qu'on a d'autres tempêtes, par exemple, pour l'Otar en 1999, on a pu mesurer à La Rochelle donc 960. Voilà, donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Loin de là. Pour les vitesses de vent, ça c'est les rafales de vent, hein. C'est pas les vents moyennés sur une heure, par exemple. Ça a été mesuré jusqu'à 158 km/h, donc c'est à Saint-Clément des baleines. C'est pas exceptionnel du tout, c'est parce qu'on a pu mesurer, par exemple, pour la tempête Klaus, donc en janvier 2009, des valeurs jusqu'à 172 km/h. Bon, je ne vais pas revenir sur les précipitations, c'est très faible. Le débit du lait, donc c'est le fleuve qui est à l'arrière donc, de la faute sur mer, était très faible, à peine 20 mètres cubes par seconde. Par contre, ce qui est déjà intéressant, ce qui est remarquable ici, c'est qu'on a été dans des coefficients de marée assez élevés, donc coefficients 102. Donc je rappelle, les coefficients de marée, ça va de 20... Bon, déjà, la coefficient de marée, c'est une invention franco-française, donc il n'y a qu'en France que ça existe. Donc, mais c'est pas mal parce que ça permet rapidement, avec des chiffres, avoir une idée de l'intensité de la marée. Donc, pour les plus petits coefficients, c'est 20 et le plus fort, c'est 120. Donc, l'un est à 102, c'est-à-dire que c'était déjà très, très, très fort. Je veux vous montrer ici cette partie ici, cette courbe-là. Donc, en bleu, là. C'est ce que donc la journée du 27 au 28, la nuit du 27 au 28, c'est la marée, comme maintenant on appelle prédite, mais avant on l'appelait astronomique. Donc c'est lié uniquement donc aux forces gravitationnelles. Voilà, donc qui était élevée, mais qui n'atteignait pas. Je vais revenir. Peut-être que j'aurai besoin d'un pointeur. Ici. Ici, vous voyez donc que vous avez un double axe. Je commence tout de suite à parler de ça. Ça, c'est les côtes ici sont exprimées par rapport au zéro hydrographique, qui est le repère de quand on prend la mer, etc. On tous les données, toutes les cartes bathymétriques, etc. sont par rapport au zéro hydrographique. Mais quand on parle de submersion, surtout, on oublie le zéro hydrographique. On parle du zéro IGN 69. Donc pour la métropole, hein. En Corse, c'est IGN 89. Donc, vous voyez ici, ça équivaut à 6,50 mètres à peu près. Et ici, vous avez l'équivalent en IGN 69. Donc, ça, c'était la côte attendue, normale, s'il n'y a pas, on va dire, s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de dépression trop forte, s'il n'y a pas de vague trop forte. En rouge, vous voyez ce qui a été mesuré par le marigraphe à La Rochelle. Donc, qu'est-ce qu'on constate ? Donc, déjà qu'il y a une anomalie, donc on appelle une surcote. La surcote, c'est justement la différence entre cette courbe rouge et la bleue. C'est cette anomalie-là qui, je vais expliquer à quoi c'est dû. Donc, on appelle ça, c'est la surcote météorologique ou atmosphérique, parce que c'est lié donc à la pression atmosphérique et au vent. Donc on se rend compte que c'est proche de la pleine mer, ici, donc au 62, qu'on a une très grosse surcote. Donc, cette surcote-là, de pleine mer, ça, elle a atteint 1,53 m. Et donc ça fait qu'on a dépassé la côte, je vais parler en hygiène plutôt, c'est plus simple, ça c'est la topo terrestre, et la 4,50 m. 1,53 m, c'est déjà la plus forte surcote jamais mesurée au marigraphe de La Rochelle, qui, sur 50 ans de mesure, on peut exploiter que 25. C'est-à-dire que la moitié du temps était en panne. Voilà. Donc, et largement. Par exemple, pour le 27 décembre 1999, les batteries sont tombées dans l'eau, donc on n'a pas pu mesurer donc, la surcote. On a pu l'estimer, hein, mais on n'a pas mesuré. Les surcotes les plus importantes, jamais mesurées donc à La Rochelle, ne dépassent pas le mètre. Et pour prendre un peu plus de recul, si on regarde le marigraphe où on a le plus de données, donc c'est Brest, on a 150 ans de données, de mémoire, je crois que la surcote, ça doit être 1,43 m ou 1,47 m, la plus forte mesurée. Donc là, c'est là qu'on a quelque chose déjà d'important, de gros. Donc on a un coefficient de marée qui est important. La surcote, elle aurait pu très bien arriver, ça, à basse mer. Ça n'aurait pas eu la conséquence. Mais il y a quasi concomitance avec l'étal de pleine mer. Je vais vous parler des petits graphiques, comme ça on va parler un peu de vocabulaire et les processus. Voilà, donc là, ça c'est simple. Donc là, par exemple, quand on parle en mer, justement, je me suis mis au zéro hydrographique. Donc là, ça c'est, par exemple, le zéro hydrographique, c'est le niveau qu'atteint la mer par un coefficient 20. Pardon, je me dis n'importe quoi. C'est par un coefficient 120, mais à basse mer. Donc, un coefficient de vivo. Donc, à un moment donné, donc on peut voir le marnage, c'est la différence entre donc la marée haute et la marée basse, à laquelle on peut ajouter donc, c'est ce que je vous ai dit, ce que je vous ai montré, la surcote atmosphérique ou météorologique. Avant, on appelait ça onde de marée, ou le tout, on appelait ça ras de marée, etc. Maintenant, on essaye de mettre des mots que tout le monde s'entend, en fait. Donc, on parle là le marnage, la surcote météorologique, voire atmosphérique. Donc ça, c'est au niveau... Donc, comme je l'ai dit, cette surcote atmosphérique est liée donc à une baisse de la pression. Donc, lors des périodes de tempête, on a eu des chutes de la pression. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 969, qui a été mesurée donc, au large, en mer. Donc, la pression normale à la surface de la mer, en moyenne, c'est 1012 ou 1015 hectopascal. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si je appuie moins sur l'eau, mais l'eau, elle monte. Donc ça, c'est ce phénomène-là, on appelle le baromètre inverse. Donc on fait la liaison, pour simplifier, la chute de 1 hectopascal équivaut à la remontée du niveau de la mer de 1 cm. Voilà. Donc si j'ai 20 hectopascal au moins, ça me fait une surcote barométrique de 20 cm. À ça aussi s'ajoute l'effet du vent. L'effet du vent... Donc il va souffler à la surface de l'océan et il va générer donc là où des courants de surface ces courants-là vont propager les masses d'eau quelque part. Et pour qu'il y ait une surcote, il faut qu'il y ait un obstacle déjà. Si je souffle en pleine mer avec 2000 mètres de profondeur et qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'île, rien, mais il n'y aura pas grand-chose comme surcote, si vous voulez. Déjà parce que la colonne d'eau est très importante, je parlais des centaines ou milliers de mètres. Donc, pour que le vent ait vraiment un impact, il faut déjà que la profondeur ne soit pas trop importante et il faut que l'eau vienne s'accumuler quelque part, contre quelque chose. D'accord ? Voilà. Le vent aussi, quand il souffle, qu'est-ce qu'il va générer ? Mais les vagues. Donc, les vagues, c'est son mouvement instantané. Ça, c'est un niveau moyen, on va dire, de l'eau. Vous l'observez, ou c'est difficile d'observer parce que quand vous êtes à la plage, vous voyez, ça bouge dans tous les sens. Quand il pleut, ou sinon, des fois, vous avez mer d'huile, ou vous avez des belles vagues qui arrivent toutes sinueuses, longues, etc. Donc, il y a ce niveau moyen. Après, il y a ce niveau oscillant, donc les vagues qui sont générées par le vent. Hein. Ces vagues-là, elles vont s'approcher donc, du littoral, et dès qu'il y a une profondeur limite, en fait, il y a un rapport entre la hauteur des vagues et la profondeur, elles pourront déferler. Donc, les vagues, en se propageant sur la côte, et transporte beaucoup d'énergie, et donc cette énergie-là, elle va se dissiper, elle va se perdre, si vous voulez, lors du déferlement. Donc quand les vagues déferlent, en quoi se transforme cette énergie-là ? En deux choses, en fait, ou même en trois, parce qu'il y a un peu de chaleur qui est libérée, mais il y aura une surélévation du niveau moyen du plan d'eau. C'est comme s'il y avait une petite marée, si vous voulez, le niveau moyen de l'eau augmente, parce qu'il y a un apport d'eau. C'est les vagues qui déferlent. Donc ça, ce qu'on a mis en rouge ici, ça c'est toujours le niveau moyen. C'est ce qu'on a mis, on le dit en anglais, c'est le setup ou le wave setup, parce qu'il n'y a pas d'équivalent en français. On dirait sur côte liée au déferlement des vagues. Ça c'est là. Donc ça va aussi, ça va se rajouter donc au marnage, à la surcôte atmosphérique et voilà. Et vous voyez qu'il y a ici, ça n'existe que depuis le déferlement des vagues jusqu'à la côte, avec un maximum à la côte. Donc c'est très restreint. Ça peut faire, cette zone-là peut faire 100 mètres, 50 mètres, ça dépend d'où les vagues déferlent. Mais ça peut être un facteur très important aussi. Les vagues, donc, que j'ai dit qu'elles vont déferler ici, il y a le mouvement instantané qui se superpose. Et donc... Et vont pouvoir, donc c'est le va-et-vient, donc le flux, le reflux des vagues, et pourra y avoir ou pas surverse ici, ça va couler ou pas. Donc ça, c'est, il y a une composante de niveau moyen et une composante instantanée. D'accord ? Et donc la côte maximale atteinte par les vagues, ça s'appelle le run-up. Et la côte minimale atteinte par les vagues, je ne l'ai pas mis, c'est le run-down. Mais bon, le run-up, c'est un terme qui est très connu. Aussi, bon, l'équivalent n'existe pas non plus en français, mais très connu pour les tsunamis. Tsunamis, quand on parle des hauteurs d'eau de run-up de 20 mètres, 1 mètre. Pour le Japon, c'est jusqu'à 40 mètres. Mais il ne faut pas dire, il ne faut pas penser que c'est 40 mètres, que la vague fait 40 mètres de hauteur. C'est que ça a atteint la côte, c'est venu mourir à une altitude de 40 mètres. D'accord ? Voilà, donc si je transpose tout ça ça c'est à la Rochelle de la Palisse, donc. Ici, j'avais la côte donc, de la marée, prédite, c'est 6,43 m plus 1,53 m, ça me faisait les 8 mètres que je voyais sur le graphique à l'intérieur. Et quand je transforme ça en IGN, on tombe sur le chiffre de 4,5 m. Voilà, 69. Or, il y a un souci, c'est que ça, c'est mesuré au niveau par les marégraphes. D'accord ? Les marégraphes ont été installés dans les ports pour des besoins de la navigation. Donc c'est pour ça l'origine des marégraphes et son utilité première. Maintenant, on l'utilise pour travailler sur la submersion, les codes mesurer les codes de référence. Mais le problème, c'est que le marégraphe, on est dans le port, donc sans protéger des vagues. C'est le but. Hein. Donc, ce que mesure le marégraphe, c'est ça. Donc, le marnage plus la surcôte atmosphérique. Mais comme il n'y a pas de déferlement dans le port, il ne mesure pas le setup. Ou ça dépend de la configuration locale du marégraphe. Il y a des marégraphes qui mesurent un petit peu de setup, mais un petit peu. Pas ça, pas le plus important. Donc, ce qu'on a mesuré ici, les 4,50 m. À La Rochelle, c'est le minimum. Ça va être plus si on rajoute le setup. Et évidemment, après, il y a l'effet donc instantané des vagues qui vont monter donc le flux, le reflux par la surverse. Voilà, ça c'était pour vous parler donc un peu de vocabulaire qu'on manipule, les côtes marines, les côtes hygiènes. Et voilà, j'ai mis ce graphique-là, donc ça c'est extrait donc, du CHOM, hein, donc Service hydrographique et océanographique de la marine, qui a établi, ici vous voyez sur ce graphique-là, en abscisse, ça c'est les côtes hygiènes. Donc voilà. Et ici, il y a les périodes de retour. Donc, si je lis par exemple une côte un peu plus de 3,70 m, c'est pas 3,71 m, on va dire. Cette côte-là, on la retrouve en moyenne une fois tous les 10 ans. Où on a 10% de chance de la voir. D'accord ? Et pour la période de retour centennale, c'est à peu près 3,94 m. Donc on a en moyenne une chance sur 100 d'observer cette côte-là. Là, ce qui a été mesuré, c'est 4,50 m. Donc, il y a un problème ici avec nos courbes. On sort complètement là, et on ne sait pas trop attribuer la période de retour. En fait, notre donnée instrumentale de 25 ans, ça nous a permis de tracer cette courbe-là jusqu'ici, mais on ne sait pas l'extrapoler. On peut pas déjà l'extrapoler, mais on a un problème avec les données. C'est trop court donc, pour pouvoir calculer ces périodes de retour. Donc depuis, on a fait quelques progrès. En fait, on essaye de progresser sur cet aspect-là. Pardon. Oui, juste cette carte d'abord. Ça, c'est justement c'est les travaux du CHOM juste après, donc, après Cynthia, donc, qui ont été présentés, qui met donc ici, au niveau de leurs différents marigraphes, ils ont calculé la période de retour. Donc vous voyez, plus c'est rouge là, plus c'est fort. Donc au sable d'Olonne, il est tombé en panne, le graphe aussi. Ça montait. Je crois que c'est encore les batteries qui sont dans l'eau, donc on ne voit pas le pic. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est supérieur à 100 ans. À La Rochelle, on a vu qu'on ne peut pas dire autre chose que c'est supérieur à 100 ans. Saint-Nazaire, c'est supérieur à 100 ans. Et par exemple, ici, donc, la pointe de Grave, c'est entre 20 et 50 ans, comme à l'intérieur du bassin d'Arcachon. Donc après, quand je m'éloigne, c'est cette zone-là où, en fait, où j'ai eu les niveaux, en fait, oui, les plus forts. Je m'éloigne ici, donc c'est annuel, 1 à 5 ans, etc. Donc quand on parle de Cynthia, période de retour supérieure à 100 ans, il ne faut pas oublier que ça correspond à un espace géographique. Ici, ça, en Cynthia, ça n'a rien provoqué comme à Bayonne ou au Pays Basque. Il n'y a rien eu pour Cynthia. Voilà. Ça, c'était... Voilà. Et je voulais juste revenir, mais bon, j'ai plus eu l'occasion de visiter l'exposition tout à l'heure, la Merce des Chênes, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de schémas qui montrent... Donc, là, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé des niveaux rivages et des surverses, etc. Maintenant, je vais juste... Ce schéma-là, c'est pour expliquer... que la submersion se fait par deux types de franchissements. Donc, là, état initial, mon niveau moyen est inférieur à la côte de ma digue. J'ai des vagues, mais les vagues, ils n'arrivent pas à franchir. Imaginons que le niveau d'eau monte ou que mes vagues forcissent. À un moment donné, il n'y a que les vagues qui vont passer. Mon niveau moyen va rester en dessous de la côte de l'ouvrage. Et ça va continuer de passer. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit, par exemple, la marée monte. Donc à ce moment-là, ma côte de niveau moyen est supérieure à ma côte d'adic. Et donc là, j'ai beaucoup plus de vagues d'eau qui va rentrer. Le franchissement pour paquet de mer, c'est un mouvement aussi long. Tchac, tchac. Donc il n'y a pas beaucoup d'eau qui rentre par rapport. Là, c'est comme si ça débordait, votre baignoire débordait, quoi. L'eau coule tout le temps. Donc, il y a des volumes en jambes beaucoup plus importants. Donc, à partir de cette situation-là, soit mon niveau moyen augmente, donc j'ai du débordement, soit ça diminue et je me retrouve avec le cas initial ici, mais j'ai fait passer un petit peu d'eau. Et l'autre cas, c'est quand il y a mon ouvrage de défense, qui est ici, symbolisé ici, mais il y a une brèche qui se forme. Donc là aussi, il y aura du débordement. Okay. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer, plutôt avec les mains, pourquoi finalement on a eu une surcote aussi importante, alors qu'on a, je vous ai montré tout à l'heure, avec les chiffres, que ce n'était pas une tempête exceptionnelle, ni en pression basse, ni en vitesse du vent, de vent. Par contre, ce qui est déceptionnel, cette tempête-là, c'est sa trajectoire. Vous vous souvenez, elle est arrivée comme ça. Voilà. Ça, ce n'est pas une trajectoire classique, c'est une trajectoire atypique. Les tempêtes hivernales, comme Martin, Klaus, les plus importantes, arrivent plutôt d'ouest. Okay. Alors qu'ici, ça arrive comme ça. Donc, étant donné qu'il y a, c'est que ça a la forme d'un cyclone, mais macrocyclone si vous voulez, à un moment donné, les vents vont souffler comme ça. Donc, ce que je vous ai dit, l'eau va être poussée en fait vers la côte. Ici, je vous ai mis cette carte-là, c'est juste pour que vous voyez un petit peu. Ça, c'est le plateau continental. Donc, ça atteint 200 mètres à peu près la bordure du plateau. Après, on descend dans les abysses. Talus continental et la plaine abyssale. Donc ici, c'est les secteurs où, en fait, on va dire pour le vent, c'est eau peu profonde. Donc la surcôte va s'accentuer. Parce que le vent va avoir plus de force, si vous voulez, sur une épaisseur d'eau qui est bien moins importante qu'ici. D'accord ? Donc là, il y a une amplification. Et d'autre part, il y a une forme... Vous voyez les côtes comme elle est faite ici, tac, tac, comme ça. Ça fait une forme, on va dire, en V ou en entonnoir. Et donc, l'eau va s'accumuler ici. Et va aller au bout, là, c'est Charon. C'est là où on va retrouver le plus d'eau. Tout l'eau s'accumule. Donc, rien qu'avec ça, en fait, cette trajectoire-là, dès qu'on a des trajectoires comme celle-là, avec des vents même pas très forts, en fait, ça va générer des surcotes importantes ici. L'autre point, mais c'est plutôt pour les spécialistes, on a appris beaucoup sur cette tempête-là, c'est que, je ne vous ai pas encore parlé des vagues, mais je ne saurais pas tarder, ici les vagues, alors, au large, par ici, en Léron, c'était de l'ordre de 7 mètres. Et plus loin ici, c'était dans les 8 mètres de hauteur significative. Une hauteur significative des vagues, c'est la moyenne du tiers des vagues les plus importantes. Ce n'est pas une hauteur moyenne, ce n'est pas une hauteur de vague max. Il y a un rapport, en fait, il y a des rapports qui existent entre une vague significative et une vague maximale. Ces rapports varient entre 1,6 à 1,9. C'est-à-dire, si j'ai mesuré des vagues significatives de 10 mètres, ça a pu, dans la série mesurée, j'aurais pu avoir des vagues de 16 mètres à 19 mètres, par exemple. Donc, ces vagues-là, ici, ont été générées comme la tempête arrivée ici, était générée sur le golfe de Gascogne. Donc, pour les vagues, en général, c'est petit, on va dire. Vu des vagues, c'est petit, parce que c'est des dimensions qui sont petites par rapport aux vagues qui arrivent de loin, où ils ont un fetch, on appelle ça, donc une surface assez importante. Hein. On a tout l'Atlantique ici. Donc, ces vagues-là avaient des hauteurs quand même 7 mètres. 7 mètres, 7 mètres, c'est des vagues même pas annuelles. La période de retour, c'est même pas annuel, c'est plus. La période de retour annuelle des vagues, ça va être dans les 8 mètres, dans ce secteur-là. Donc c'est une vague tout à fait classique pour la période, pour l'hiver. Mais il avait une particularité, ces vagues. Ces vagues, on appelle des vagues jeunes. Parce que comme ils se sont créés sur ce bassin-là, ils n'ont pas eu le temps en fait, de grandir ou de vieillir, c'est-à-dire d'avoir des périodes. La période, c'est le temps entre deux crêtes ou deux creux de vagues, par exemple. C'était petit tout ça. Donc c'est des vagues jeunes, donc qui avaient une forte pente. C'est-à-dire que si ma hauteur de vague de 7 mètres, avec des longueurs d'onde qui étaient... donc là, les périodes faisaient 8 à 10 secondes, alors qu'on s'attend pour cette hauteur de vague-là, on s'attend plutôt à des périodes 12-13 secondes. Donc ça fait que la mer, on va dire, était en... une image, c'est en tôle ondulée. Vous voyez, une tôle ondulée par rapport à une tôle tout à fait lisse. Donc, quand la mer est en tôle ondulée comme ça, avec des vagues à forte encombrure, ça fait quoi ? Ça fait plus de surface à l'air, au vent. parce que vous avez plus de surface, donc, et donc ça fait que je vais absorber plus d'énergie du fond. Parce que mes vagues sont encombrées. Donc j'ai cette tôle. Voilà. Or, dans les formules qu'on utilise pour calculer donc, les surcotes atmosphériques, donc il y a l'effet du vent, en général, les formules ne tiennent pas compte de cet effet, cette rugosité liée aux vagues, en fait, de l'océan. Et donc là, dans ce cas-là, c'était un cas très particulier, donc, et on s'est rendu compte que si on ne tenait pas explicitement compte de ces pentes de vagues qui sont assez importantes, on sous-estimait, ici, dans nos calculs, la surcote de jusqu'à 20 à 30 cm. On le sous-estime. Donc ça, c'est aussi un phénomène qui a joué, et que maintenant on a pris connaissance, et maintenant donc, on a changé les formules pour tenir compte de cette pente des vagues dans le calcul de la surcote atmosphérique. Voilà. Juste ici pour illustrer, ça se limite dans ces études récentes qu'on a sorties en 2013. Ça, c'est sur la côte aquitaine. Hein. Ça, c'est à différents points. Et là, c'est juste pour vous montrer comment... Ici, vous voyez, ça, c'est le golfe de Cap-Breton. La largeur du plateau continental est assez faible. Donc, on s'attend à avoir des surcotes plus petites par rapport à ici où c'est plus large. Vous voyez, à Soulac. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Donc, ici, vous vous retrouvez les surcotes de pleine mer, donc... jusqu'à 1,10 m, ça dépasse 1,10 m, pour des périodes de retour, donc jusqu'à ici à 62 ans. Donc vous voyez qu'ici à Soulac, c'est en gris, les valeurs sont bien plus importantes qu' ici, correspondant à ce qu'est Saint-Jean-de-Luz. D'accord ? Ça c'est un phénomène tout simple, hein, c'est physiographique, c'est lié à la forme de nos côtes, en fait, du plateau continental. Voilà. Après, nous, on a pu faire tourner des modèles. Ça, c'est les premiers. Tous nos premiers résultats, on les avait déjà deux jours après, en fait. À l'époque, c'était bien parce qu'on avait des résolutions assez importantes. Là, c'est des modèles de niveau d'eau à des mailles de 200 mètres. À l'époque, les modèles travaillaient plutôt à des mailles de 2 à 3 km. Donc, on a pu atteindre une finesse ici. C'est pas, on a bien fait mieux maintenant, hein. Vous voyez ici que le modèle nous donne des cotes à la Rochelle de la Palisse, c'est entre 4,3 m à peu près, alors qu'on a mesuré 4,5 m. Mais c'était juste, je vous le montre, c'est en relatif. Vous voyez bien qu'on retrouve les secteurs les plus importants, c'est sur le Charon, justement, toute cette partie-là en fait. J'étais en plage, ici, donc avec les Boucholeurs, plus au sud. Voilà, donc on retrouve bien ici, et ici, donc ce secteur-là. C'est beaucoup moins important. Et vous voyez, il y a une amplification assez importante derrière les îles. Il y a une accumulation d'eau. Ça, c'est pour le niveau d'eau. Et si on regarde les vagues, ça, c'est des travaux aussi. On a propagé des vagues, on n'avait pas trop d'idées. Et on retrouve ce que vous voyez dans la nature. Là, c'est la côte couleur me donne la hauteur significative des vagues. Et les directions, c'est le vecteur. Les flèches, c'est la direction des propagations des vagues. Bah, ce sont les côtes exposées aux vagues, justement, des îles, qui ont absorbé toutes les vagues. À l'arrière, vous voyez, c'est des valeurs très faibles. Par contre, au niveau des pertuis, ici, on voit qu'il y a une langue qui va taper ici, justement, sur la faute sur mer, et qui rentre ici au niveau Châtelaillon-Plage, pardon, tout ce secteur-là. Donc, c'est assez différent, c'est même à l'opposé par rapport au niveau d'eau. Donc, pour retenir, c'est cette partie-là, donc directement avec des vagues ici au large qui peuvent faire 6 mètres, 7 mètres. Et après, ils arrivent à 3 mètres et puis ils vont déferler vraiment sur la plage. Voilà. Voilà, donc je vous ai expliqué la chronologie, les processus. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez revenir, que je revienne sur des choses ? Oui. Oui. Là, quand on regarde votre carte avec les îles, on a plutôt l'impression qu'elles auraient dû servir, si ça venait du sud, enfin du sud-ouest, ça aurait dû être plus protégé que si ça venait plein ouest, voire du nord-ouest. Ça, c'est la tempête, quand je dis qu'elle vient du sud, c'est mon premier transparent. Ça, c'est ça la trajectoire. Ça, c'est vu du centre de la tempête, là où la pression est minimale. Mais c'est là où les vents sont le plus faibles. C'est pour ça que j'ai mis la carte à côté avec les vents. Ici. Vous voyez ici, le centre, il était par là, entre là et là, quoi, entre 6h et 0h, c'est là. Mais c'est ici, vous voyez la tempête, la pression les plus faibles sont à ce niveau-là. Ça me crée comme une espèce de champ cyclonique qui bouge anti-horaire. Et donc là, les vents arrivent, vous voyez les vents ? Après, il y a des... Bon, les vents vont générer des courants d'Ekman, mais je ne vais pas rentrer, si vous voulez, sauf si vous voulez, je rentre, j'ai un slide à la fin. Bon, ça va créer des courants qui vont, dans la direction, va dépendre en fonction de la profondeur. Voilà. Donc, on a vu donc, la tempête. Quelles sont les conséquences ? Donc, je vais vous parler de... sur ce qu'on travaille, c'est essentiellement c'est l'érosion et la submersion. Puis je vais aussi vous parler, vous montrer quelque chose sur le bâti et les coûts. Voilà, donc ça c'est suite au terrain qu'on a pu faire. On a couvert plus d'une centaine de kilomètres, plus de 250 kilomètres de côte. On était deux équipes hein, qui ont réparti le travail. Et l'idée qu'on avait en tête, nous, c'était pas aller là où il y avait eu le plus de dommages. On voulait pas être exhaustif, on voulait avoir un panel sur toute la linéaire côtière qui était affectée. Donc, on a pu travailler avec les gens de l'ONF, Office National des Forêts. Ce sont des gens qui sont à... Comment ils gèrent la dune donc littorale. Ils sont à demeure sur le littoral. Donc c'est des gens qui connaissent très bien leur coin et qui c'est très bien travailler avec eux parce qu'ils nous disent tout de suite, voilà, c'est là que ça a bougé le plus, voilà, ils nous amènent sur des marqueurs pour constater l'érosion. Donc sur l'érosion, on a vu que sur tout le linéaire côtier en fait, qu'on a pu visiter, ça avait reculé en moyenne de 3 à 5 mètres. Et par endroit, notamment les îles justement, la partie exposée au vague, comme je disais tout à l'heure, c'est là qu'on a pu constater des reculs maxima allant jusqu'à 22 mètres. 22 mètres, ce n'est pas exceptionnel. D'autres tempêtes, justement, on a pu observer des reculs comparables de 10, 15, 20, 25 mètres. Donc ici, par exemple, vous avez des marqueurs pour voir. C'est avec ça qu'on a pu déterminer. Ici, avant, la dune couvrait ces ce tuyau-là, en fait, AEP. Donc là, on a pu, avec un mètre, on avait un laser plutôt là, pour mesurer combien ça reculait. Et pareil, ce panneau-là, l'ONF nous a dit, ben, la dune, ce panneau était au pied ici de la dune. Donc on a pu constater comme ça, avec des indicateurs, le recul moyen. Donc c'est assez important, donc la dune a reculé, c'est une translation vers l'intérieur des terres de la dune. Mais il y a des endroits en particulier aussi où il y a eu des brèches qui se sont formées. Donc ici, le nord est ici. Hein. Ça, c'est l'Anse-l'Aiguillon. Vous voyez, bon, vous ne voyez pas, ça, c'est la Faute-sur-Mer, l'Aiguillon qu'il a. Le Lez. Oui. Donc il y a eu ici, c'est la brèche de la Belle-Henriette, qui est plus connue, mais il y a eu d'autres brèches qui ont été aussi faites au sud du village des Boucholeurs. Justement, c'est là où il y avait une langue des vagues qui est dépassée, en fait. Par ici, vous voyez, parce qu'il y avait justement les vagues qui sont propagées sur cette terre-là. Donc ça, c'est l'érosion de la dune. Et il se trouve que je vais juste pour toujours en érosion, je reviendrai. Mais des fois, on construit au-dessus des dunes. Donc à droite, ça c'est la tranche sur mer. Donc quand on construit sur la dune et que la dune part. Mais on se retrouve avec tout ce qui est mur, en fait, le jardin, en l'air. Et donc ça peut tomber. Ça, c'est des photos qu'on voyait. On n'avait pas l'habitude de le voir, en tout cas en métropole. On peut le voir ailleurs, dans les dômes, mais pas trop en métropole. Donc l'érosion, donc, ça concerne évidemment la dune, mais ça concerne tout ce qui est construit sur la dune. Juste aussi pour voir, donc, on a observé, mais ça, on n'était pas les seuls, il y en a plein. On a énormément de données sur cette tempête-là, de la submersion qu'il y a pu y avoir, que sur cette beaucoup d'endroits, on a pu constater, on a fait des mesures avec des GPS de position centimétrique, que l'eau était arrivée à des cotes supérieures à 4,5 m. 4,5 m, pourquoi? Parce que c'est ce qui avait été mesuré au marégraphe de la Rochelle. C'est notre seule mesure, en fait. Et après, par endroit, cette cote est même à dépasser. On a retrouvé des cotes à 4,7 m. Donc, on a pu faire des cartes comme ça, des submersions. Voilà, la limite d'extension, c'est ce qu'on recherche. Mais ce qu'on recherche aussi, c'est la hauteur d'eau. Donc, on a des traces sur les murs, des choses comme ça, bon, partout. Là, il faut aller très vite parce que ça disparaît très vite. Parce que les peintures sont des meilleures qualités. Donc, je sais pas, ça adhère pas beaucoup maintenant. Et d'autre part aussi, c'est notre comportement à nous. Quand on a une tempête, quelque chose comme ça, ce qu'on veut faire, c'est nettoyer. On veut enlever les traces. Et donc, voilà, ce qui est normal. Donc, c'est pour ça que nous, on se dépêche pour y aller, pour mesurer avant que les traces soient effacées. D'accord ? Donc, on a appris énormément de choses sur les zones qui ont été inondées. On a cherché les causes. Après, on a vu des choses aussi, des choses très différentes. Des zones comme celle-ci, vous voyez ? Ça, c'était vraiment au bord du rivage. Et c'était des zones où les vagues avaient pénétré. Donc, là, c'est les vagues qui sont venues casser dessus. Donc ça concerne plutôt du bâti léger, c'est des annexes des maisons, garages, choses comme ça. Voilà. Mais la maison, en général, n'était pas dans cet état-là, hein, les maisons, on n'a pas constaté. Et ça, c'est quand l'eau est chargée, se casse de détritus, de morceaux de bois, de tout ce que vous pouvez, et ça, c'est transporté, et puis dès qu'on a un obstacle, ça se dépose. Ça, c'est classique, donc ça, c'est les choses qu'on a pu observer. Que tout le monde a pu observer. Là, je fais un clin d'œil. Ça, c'est pas du tout sur le secteur. C'est au niveau de Soulac, oui. Donc, c'est plus au sud. Ça a été aussi l'actualité au mois de janvier. C'est la fameuse, le fameux bâtiment du Signal. Je connais depuis longtemps. Moi, je suis chilien. Je suis arrivé en France il y a longtemps pour faire mes études. Et j'ai fait mes études à Bordeaux. Toutes mes études. Donc, je connais très bien le coin. Et voilà. Donc, déjà. Pour Cynthia, il n'y a que 5 mètres qui sont reculés, mais du coup, il ne restait plus que 20 mètres entre ici et ici. Et donc là, il y avait encore des habitants qui ne voulaient pas partir. C'est normal, hein, ils ont investi, ils ne vont pas laisser leur bien comme ça, ils vont négocier leur bien avec l'État pour, avant d'évacuer. Juste ici, c'est une photo que j'ai trouvée de 1985. La résidence a été construite en 65, entre 65 et 70. Et là, vous voyez la distance, il y a plusieurs centaines de mètres. En 1965, on estimait à peu près à 200 mètres. Donc, en 47 ans, 40, c'est ça, oui, 5 ans, ça a énormément reculé. Mais le secteur est connu, hein, ça recule beaucoup sous ce secteur-là. Et donc, ça a été en fait évacué. Fin janvier cette année, juste avant les grandes marées. Parce qu'on avait peur, en fait, que ça tombe, comme vous avez vu tout à l'heure, c'était des jardins. Mais là, cette fois-ci, ce n'est pas un jardin, ce n'est pas des murs, des clôtures de jardin, c'est une résidence avec des gens qui habitent dedans, qui habitaient. Voilà, donc après, on a regardé aussi un petit peu comment ça s'était comporté au niveau sur les infrastructures, sur les ports. En fait, déjà, tous les ports ont débordé. Donc, ici, tout ça, c'était pas prévu pour que ça aille au-dessus. Donc, tout ça a été cassé. Les bateaux étaient sur les quais. Partout, on a vu ça. Jusqu'à Pornic, en fait, on a été. Ça avait débordé. Voilà. Et à l'île de Ré aussi, il y a un port où il y avait carrément un gros bateau qui était sur le quai, posé. Voilà. Il y a eu des digues. Ça, c'est à la Couarne, je crois, ici, qui ont été cassés. À l'île de Ré, c'est la cale la plus connue. Il y a une digue qui a été complètement cassée sur une bonne centaine de mètres. Donc, les ouvrages de défense ont beaucoup souffert, surtout ce qui est exposé aux vagues. Il y a aussi ce qu'on appelle les renards hydrauliques. Ce n'est pas des vrais renards, c'est des renards hydrauliques. C'est une érosion. Des digues des remplis, des digues en terre. Donc ça fragilise tout ça, en fait. Après, on ne peut pas laisser ça comme ça, en fait, parce que on touche à peine et ça s'effondre. et les choses plus pas courantes en fait. Maintenant, on commence à voir. Vous voyez comme ça, ces blocs. Ces blocs font 600 kilos, une tonne 5. Mais ces blocs, ils étaient en fait de l'autre côté du ponton. Ils ont été projetés, transportés de l'autre côté. Ça, c'est pas très classique. Nous, on le voit beaucoup sur les tropiques, en fait, là où il y a des cyclones. On retrouve des gros blocs de platier récifal qui peuvent être projetés sur 20, 30, 40 mètres. Ça, on le voit souvent. Mais pas ici en métropole. Voilà. Donc ça aussi, on garde en mémoire après qu'il y a des gros blocs qui peuvent être transportés, voire projetés. Évidemment, tout ce qui est les réseaux routiers aussi, ça c'est la route qui est derrière l'Aiguillon là, en face de la Belle Henriette en fait. L'eau est pénétrée par là, est arrivée, léchée la route ici. Donc c'est des sédiments, donc ça, avec le courant, ça fouille en fait. Ça part, et donc ça reste en l'air, et avec le poids, ça tombe. Ça c'est classique, ce qu'on a pu voir, un peu partout. Voilà, ça c'était les dommages donc, matériels. Je reviens un peu sur le cas particulier. Donc c'est une des plus grosses catastrophes donc en perte humaine pour la France. Voilà. De mémoire, j'ai pas d'autres événements comparables. France métropolitaine, hein, parce que par exemple en Guadeloupe, 1928, il y a un cyclone qui a causé plusieurs milliers de morts. Donc on a recensé 47 victimes, donc 41 liées à la submersion marine. Donc 6 victimes liées à des accidents avec le vent en fait. Chute d'arbre, choses comme ça. Et 79 blessés. Sur ces 47 victimes, il y en a 29 qui étaient dans le secteur de la faute sur mer. Donc là je vous ai parlé pourquoi il y a autant de victimes sur ce secteur-là. C'est là qu'on parle de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on est plus exposé aux éléments, à la submersion. Là, ici, c'est une carte de l'état-major de 1889. Donc ici, donc, toute la partie de la faute sur mer, c'était un cordon dunaire. Et l'Aiguillon, il n'y avait qu'une seule partie qui était construite, et c'était à l'arrière, ici, d'un cordon dunaire. Voilà, donc ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est pour suivre un petit peu comment ça s'est urbanisé. Donc, ici, on retrouve donc le centre historique de l'époque, à l'Aiguillon. Et maintenant, comment ça s'est développé? C'est la Hongrie. Sous cet secteur-là, ici. Donc, on recensait, par exemple, en 1901, il y avait 167 habitants à la faute sur mer. Et en 2007, il y avait, je ne lis pas bien, 1901 habitants. Donc ça, c'est beaucoup construit ici. À l'Aiguillon aussi. Mais bien moindre, parce qu'on est passé de 1921 habitants en 1901 à 2387 habitants en 2008. Donc ça s'est urbanisé, mais pas tellement par rapport à la faute sur mer. Maintenant, je vais faire une coupe. Que vous voyez ici la partie océanique, le lait. Et si on fait une coupe ici, justement, sur la partie les plus habitées, c'est la coupe qu'on voit ici. Donc ici, c'est la partie océanique. Et c'est ce qui a été mis, les auteurs ont mis entièreté la côte 4 mètres. Sachant qu'après, entre-temps, on a fait des études. Ici, à Olaise, en fait, ça a atteint jusqu'à 4,7 m, la côte maximale. 4,70 cm. 4 mètres. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, ici, on a la dune. Et ici, vous avez tous les pavillons qui ont été construits dans les années 90, en fait, 80-90, qui étaient là, sous cette côte-là, en fait, largement. Et ici, c'était protégé par une digue, par une petite digue, qui, cette digue-là, a des altitudes qui vont de 3,70 m à 4,50 m. Non, plus, 4 mètres, voire 5 mètres par endroit. Mais il y a pas mal d'endroits où sa côte est inférieure à 4 mètres. Et donc ici, ça va jusqu'où ? Donc la partie de l'aiguillon. Et ici, l'aiguillon, en tout cas, s'est déconstruit au-dessus des 4 mètres. Au-dessus des 4 mètres, l'aiguillon. Ici, en dessous. Donc c'est pour ça qu'on parle de cuvette, hein, ici. Parce que d'un côté, vous avez la dune, qui, elle, n'a pas beaucoup souffert. Et cette digue-là, qui est protégée, en fait. Et voilà pourquoi il y a eu autant de décès, en fait. C'est parce qu'on on était très exposés. On se croyait, en fait, à l'abri avec les digues. Voilà, d'une part. Et d'autre part, c'est que pourquoi, à la limite, ça ne suffit pas à expliquer le nombre de victimes. C'est pourquoi il y a eu autant de victimes, c'est que les constructions étaient tout sauf adaptées à la submersion marine. À savoir, l'eau a pu monter sur 2,70 m, 2,90 m. Donc, c'était souvent des maisons de plein pied. Donc, pas d'étage. Donc, on ne peut pas se réfugier. C'est arrivé la nuit, tout ça. C'était à partir de 3h30, ça a commencé à être inondé, la nuit. Les volets étaient électriques. Donc, l'eau monte, court-circuit, et donc les volets ont baissé. On ne peut même pas sortir. Et après, on n'arrive même plus à ouvrir la porte, parce qu'il y a tout qui rentre. Voilà. Donc, c'est arrivé la nuit, ça, c'est une cause. Et d'autre part, c'était des maisons de plein pied, et donc avec des choses qui n'auraient pas dû être là, quoi, comme ces fameux volets électriques. C'est pour ça, en fait, qu'il y a eu, autant de victimes. Donc, c'était un piège naturel. Et en plus, on a construit n'importe comment. Et ça aussi, c'est une leçon à tirer. Si vous voulez, en France, il y a des constructions parasismiques. Il y a des normes à suivre pour que ça ne tombe pas lors des séismes. Or, il n'y a pas de normes para-submersion ou para-inondation. Ça n'existe pas, ces normes-là. Donc il faudrait, à un moment donné, qu'on travaille là-dessus. Sachant que si je parle inondation, que l'inondation, tout confondu, fluviale et marine, il y a un quart de la population de la métropole qui vit dans des zones inondables. Et il n'y a pas de normes de construction pour l'eau. Voilà ce que je voulais dire sur cet aspect-là. Sur les coûts maintenant. Je regarde un peu l'heure. Ouh, je suis pas bavard. Voilà. Donc, rapidement, on a pu évaluer les dommages à 1,5 milliard. Par la Fédération française des sociétés d'assurance. Sur 1,5, on avait estimé qu'il y avait 800 millions liés au vent et 700 millions liés à l'eau, en fait, à la submersion marine. Il y a une révélation en fait, qui a été faite d'abord en juin par l'enquête du Sénat et puis en décembre par ces organismes, en fait, ce sont des associations d'assureurs, en fait, qui ont réévalué à 2,5 milliards d'euros. Les pertes économiques. Et sur ces 2,5, il y a 1 milliard qui est venu pour le risque habitation. Je ne sais plus le M, c'est mobilier et risque. Non, multirisque habitation, pardon. Donc ça concerne les particuliers. Là, c'est très élevé, en fait, mais ce n'est pas non plus les plus importants. J'ai juste mis les chiffres pour les tempêtes de décembre de 1999, où on a atteint 6,5 milliards d'euros. Au 3, donc exceptionnel. En fait, j'ai dit oui et non, c'est une question de temps. C'est exceptionnel. Là, c'est une compilation des historiens, des événements, donc de tempêtes ou des vies mères, qu'on appelle ici, voire des tsunamis. Il y a quelques tsunamis qui ont été enregistrés, vécus dans le secteur. Donc, depuis la libération, il n'y a pas eu, donc depuis 1943-44, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu justement 99 en fait, un événement, mais qui était surtout lié, on appelle ça une tempête de vent. C'est les vents très puissants qui ont fait tomber les forêts entières. Voilà, donc là on parle de la mémoire d'homme, parce que les personnes qui habitent là-bas disent « Oh, j'ai jamais vu ça, incroyable, etc. » Ce qui est vrai, mais si on regarde un peu plus loin, des années 40, par exemple, 37, il y a eu des grandes tempêtes. 1890, il y en a énormément, en fait, au XXe siècle et au XVIIIe siècle. Il y a eu énormément de tempêtes sur le secteur. Donc là, c'est très important, en fait, le travail de mémoire que font les historiens. Nous ressortir les tempêtes comme ça, aller chercher les archives. Ça, c'est les mêmes tempêtes, et on voit comment elles sont reparties spatialement. Donc, on voit bien qu'il y a un spot ici, sur le secteur, et les Sables d'Olonne. Donc, le code couleur correspond, en fait, aux différents siècles. Cynthia se symbolise ici. Donc, on a, en fait, des écrits, et même des descriptions très détaillées, des conséquences des tempêtes passées sur le secteur. Mais on a tendance à oublier, on y habite, la mer est belle, tout va bien, pendant des décennies, et on oublie. Ouf, il y a des tsunamis ici, il y en a qui ont pu être... Il n'y a pas 1755 ? Non, 1743. Il y a normalement un peu le tsunami de Lisbonne, en fait, 1755, dans l'Atlantique, qui a pu générer des toutes petites vagues ici, sur ce secteur-là. Et les autres, c'est, on ne connaît pas trop, en fait. Soit ces sources sont connues, soit c'est lié à des très faibles séismes. Ce n'est pas très sismique, là, le secteur. Non, là, je montre juste ce secteur-là, parce qu'il y a aussi la même chose au Méditerranée, et il y a aussi en Manche. C'est juste... Si. Mais c'est ce qui a été recensé, en fait, par les historiens aussi. Pardon ? Oui, mais c'est quand même assez faible, quand même, même si c'est. Voilà donc la répartition où les historiens ont retrouvé des écrits décrivant les conséquences des submersions. Par exemple, là, j'ai juste un exemple, la tempête de 1890. Il est marqué le degré submersion. Donc là, il parle en côte marine, ZH, c'est 0 hydrographique, donc 7,3 m max. Cynthia, c'était 8,01 m, juste pour mémoire. Et donc, ils l'ont converti après en NGF, 3,8, alors que c'était 4,5 pour Cynthia. Mais là, déjà, on retrouvait, par exemple, les Boucholeurs, vous avez entendu parler. Le village des Boucholeurs est à moitié détruit. La côte de la baie de Châtelet-Léon, sauf la partie préservée par la digue des propriétaires, a été entamée par la mer sur une largeur de 10 mètres. Et ainsi de suite. Ça, c'est juste un exemple. On retrouve ça souvent. Voilà. Et il y a ici une description aussi d'une tempête de 1937 qui a touché tout ce secteur ici. Tout ce secteur. Donc, les écrits ont pu déterminer où il y a eu des ruptures de digues, par exemple. Où il y a eu des intrusions marines, donc c'est les flèches bleues, là, plus au nord. Voilà. Et voilà, chose comme ça. Donc, vous voyez, c'est le secteur plus ou moins qui était touché par Cynthia. Donc, on pense que la trajectoire était comparable à celle de Cynthia. Sur cette tempête-là, il y a un exercice des économistes qui sont penchés sur cette tempête-là et se sont dit quel serait le coût. Aujourd'hui, si cette tempête-là se reproduisait. Donc, ils ont travaillé avec les données topographiques actuelles, c'est avec les données à haute définition, c'est du lidar. Ils ont connaissé à peu près le niveau atteint par cette tempête-là. Ils ont utilisé un système d'information géographique. Ils ont vu les zones qui étaient submergées ou pas, en connaissant de l'habitat, etc. Ils ont pu déterminer les pertes en multirisque habitation. Uniquement multirisque habitation. Ils ont estimé une perte à 4 milliards d'euros. Donc, 4 fois plus que Cynthia. Voilà. D'autres choses très intéressantes qui sont en train d'être faites aussi, c'est que les historiens, donc ils vont sur les archives, ils indiquent, ils extraient des descriptions, ils les consignent dans des tableaux, c'est très bien. Mais maintenant, on essaie d'exploiter ça. C'est-à-dire qu'on va sur des cartes anciennes, voire cartes récentes, on positionne les points, on va regarder le niveau de la marée de l'époque et on essaie d'interpréter, de faire une cartographie. Qu'est-ce qui a pu être, comment ça a pu marcher, qu'est-ce qui a pu être inondé, comment ça s'est fait? Donc c'est, par exemple, ça n'a rien à voir, c'est à Saint-Malo, c'est en 1909. Voilà comment on peut traduire ce qu'on retrouve dans les écrits sur une carte, ce qui est très parlant, parce que là, on peut voir comment l'eau a pu pénétrer, s'il y a eu ou pas des brèches, des débordements. Voilà, par exemple, on peut constater ici. Donc on place, on comprend beaucoup mieux. On se replace dans le contexte. Et des fois aussi, on met maintenant... Actuellement, est-ce que ça pourrait avoir lieu actuellement? Est-ce que la côte, on pourrait déborder, étant donné qu'entre maintenant, il y a énormément de, par exemple, de digues qui ont été construites ou pas? Ça nous aide à comprendre les événements passés et à voir qu'est-ce que a des idées, ce que pourrait être aujourd'hui. Donc ça, tout ça, c'est très important en fait. Grâce à Cynthia, on s'est rendu compte que finalement, il est très très important de travailler avec les historiens. Pour ça, et même pour, je vais y revenir, j'aurai pas le temps, mais pour les statistiques aussi. Voilà, donc j'arrive au quatrième point. Quelles sont les mesures pour diminuer le risque de submersion? D'abord, on s'est énormément amélioré sur l'alerte. Donc avant, Cynthia, quand on regardait les bulletins d'alerte, justement de Météo France, on avait ce qui ressemblait le plus. Pour nous, c'était la pluie inondation. Mais c'était tout. Après, c'était pour le vent. Et donc, quand on regarde donc, les bulletins qui ont été établis le samedi 27 à 16h, et qui étaient valables jusqu'au lendemain, le 28 à 16h, en fait, on alertait quoi? C'était rouge, vent. Donc, si je lis ici, conseil... Fond rouge et orange, restez chez vous et évitez toute activité extérieure en route. Voilà. Donc ça, c'est adapté au vent, mais pas du tout aux submersions. Voilà. Donc depuis, justement, ça a mis... Bon, on n'était pas préparé. Voilà. Et ce n'est pas un cas unique. Hein. On parle de Cynthia, c'est arrivé la même chose pour l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans. Les gens étaient alertés pour le cyclone, pour le vent. Même consigne, restez chez vous, cloîtrez. Depuis, justement, Météo France a beaucoup travaillé pour avoir une alerte plus adéquate à ces phénomènes de submersion. Donc, ils travaillent essentiellement beaucoup avec le CHOM pour définir ce qu'on appelle maintenant la vigilance vague submersion. Donc, maintenant, vous voyez, il y a un autre pictogramme ici, vague submersion. Là, j'ai sorti celui du 31 janvier. Donc, on voit apparaître ici des zones... On sait, donc, alerte submersion, là, c'était orange. Orange, ne prenez pas la mer, dans la mesure du possible, ne s'écoulez pas en bord de mer, etc., etc. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit si je veux voir le rouge? Le rouge, surveillez la montée des eaux et tenez-vous prêt à monter à l'étage ou sur le toit. Tenez-vous informé auprès des autorités communales, préfectorales et préparez-vous, si nécessaire, et sur leur ordre, à évacuer les habitations. Vous voyez, ça a complètement changé l'alerte et maintenant, on peut réagir efficacement. Parce que pour Cynthia, en fait, on avait une bonne idée des surcotes, déjà. On n'avait pas calculé les surcotes à 1,53 m, on avait calculé les surcotes à 1,20 m, 1,30 m. En fait, c'était avec la marée... de coefficient 102, ça dépassait déjà la cote centennale. Donc on aurait dû évacuer, si vous voulez, si on avait eu ça. Mais on n'avait pas la consigne, on ne savait pas comment réagir. Donc ça, c'est un grand pas donc, sur l'alerte. Bon, pour faire tout ça, en fait, et là, je vais vous montrer des choses que c'est visible à tout le monde. C'est donc le projet Prévimer, donc, qui est hébergé par Ifremer, où travaillent évidemment Météo France, le Chaume, Bergem aussi également. Météo France a la même chose, mais c'est une plateforme qui est dédiée aux prévisionnistes. Derrière, il y a des personnes qui analysent ça et qui prennent des décisions, en fait. Là, c'est juste des calculs qui sont faits automatiquement. Il n'y a personne derrière pour contrôler. Hein. C'est la grosse différence. Ça, c'était avant Xynthia. Donc, on avait des résolutions ici, des niveaux d'eau. On avait déjà des côtes assez importantes. Hein. Vous voyez ici, on était à 3,80 m. Ça, c'est une autre référence. Ça, c'est une référence par rapport au niveau moyen. Ce n'est pas par rapport au zéro hydro, ce n'est pas par rapport à l'IGN. Si on regarde ici à La Rochelle, pour passer de niveau moyen à l'IGN, il faut rajouter 40 cm. Donc, on était déjà à 4,20 m. Rappelez-vous, la centennale, c'était 3,9 m. Même avec une résolution comme celle-là, là, c'est les mailles font 2 km. Et les vagues faisaient, pareil, 600, dans l'ordre du kilomètre. Là aussi, il y a eu beaucoup de travail en fait, d'effectuer dans le cadre de Prévimer. Donc, c'est notamment le Bergem qui a travaillé, qui a fait le R&D pour Ifremer, pour améliorer les modèles de niveau d'eau. Et c'est essentiel au niveau d'eau. Justement, je vous avais parlé tout à l'heure de l'effet taux ondulé. Maintenant, c'est intégré. En fait, on peut calculer correctement les 1,53 m qui sont arrivés pour Cynthia. Donc, vous voyez ici, ça, c'est un patchwork. Ça, c'est, en fait, c'est ce que la partie émergée. Hein. Le modèle calcule sur un domaine beaucoup plus grand. Et on peut regarder donc, à l'échelle de Gascogne. Mais après, vous avez des zooms, comme ça, les taureaux, qui font chacun... La taille de maille fait 200 mètres. 200 à 250 mètres. Ça, aussi bien pour les vagues que pour le niveau d'eau. Et même pour les vagues, on va en Méditerranée et dans les territoires ultramarins. Donc La Réunion, Mayotte, par exemple, etc. Juste des exemples, je vous ai sorti ici ce matin, justement, ce qui est en train d'arriver cette nuit. Ça, c'est en rouge, c'est l'observation, et en bleu, c'est ce qui est calculé. Et là, c'est à la bouée Gascogne. C'est ici, c'est au large. Donc on attend dans les 11 mètres, vers 3h, vers 6h du matin, en fait. Demain matin. Ce qui n'est pas beaucoup hein, pour la Gascogne, c'est même pas annuel ça. Mais bon. Et ça, c'est vu sur plan, vous voyez sur le niveau des tailles qu'on peut atteindre maintenant au niveau des vagues. Ça, c'est justement le 12 à 4 à 7 heures du matin, voilà, on s'attend à des vagues au large ici de 10, 11 mètres, et ici sur les enfin des îles de 8 mètres, etc. Okay, bon, ça va taper, ça va cogner. Mais bon, il y a des petits couefs. Ça augmente jusqu'à vendredi. Voilà. Pareil pour les niveaux d'eau. Là, je vous ai mis les niveaux d'eau à La Rochelle. Donc pareil, en rouge, c'est ce qui est mesuré. Et en bleu, c'est ce qui est calculé. Donc c'est pas trop mal, mais là, on voit pas trop si le modèle est bon, parce que le marnage est très important ici, par rapport à la surcote. Donc si on regarde uniquement la surcote, ça c'est uniquement la surcote atmosphérique, donc on sous-estime. Le rouge, c'est le modèle. C'est l'observation, et le bleu, toujours, c'est le modèle. Mais on a les bons ordres de grandeur, si vous voulez. Et bon, plus loin, j'avais un autre transparent à Concarneau, par exemple, c'est pile poil, ça marche très bien. Voilà, donc on a eu pas mal de progrès sur la modélisation, en fait. Météo France et le Champ mènent un projet important pour la DGPR qui s'appelle Homonyme. Justement, il vise à avoir ce type de modélisation donc, avec des mailles de la centaine de mètres sur toutes les côtes. Donc, Manche-Gascogne et Méditerranée. La prévention. Là aussi, c'est l'actualité. C'est un guide qui est sorti en décembre 2013, la version définitive, la version officielle. Donc, c'est les guides qui concernent les plans de prévention des risques littoraux. Donc, dans les risques littoraux, il y a quoi ? Il y a, en tenant compte du recul du trait de côte, la migration dunaire et la submersion marine. Donc il y avait un guide déjà qui existait en 97 qui n'était pas très adapté en fait à la submersion marine parce qu'il s'intéressait uniquement au niveau d'eau tenant compte de la marée et de la couche atmosphérique. Il ne tenait pas du tout compte des vagues, donc du setup ou même de, donc, des phénomènes de franchissement par paquet de mer par exemple. Donc, et aussi avant, on avait des données qui n'étaient pas très adaptées pour faire la submersion marine. On avait des MNT, des monomiques de terrain, donc une visualisation de l'espace, si vous voulez, avec des mailles de 50 mètres. 50 mètres, c'est beaucoup, hein, c'est la moitié d'un stade de foot. Et la résolution Z, en altitude, était métrique, 1 à 2 mètres. Et c'est beaucoup pour des zones où tout est sur les 4-5 premiers mètres, en fait, c'est inondé. C'était pas adapté. Maintenant, grâce à un projet du CHOM IGN, qui s'appelle Litho 3D, on a accès à des données qui ont été acquises par LIDAR aéroporté. On a un pixel de 1 mètre et l'erreur en Z est de 20 cm. Donc on a des choses beaucoup plus précises. Et avant, on se contentait de calculer le niveau de référence en tonnage, en large, et on extrapolait sur la bathymétrie, sur la topographie, qui était vraiment de très mauvaise qualité. Maintenant, il y a toute une partie de comment mieux cartographier. Et des fois, on ne peut pas juste faire ça, sur les secteurs de marée maritime, par exemple. Si on fait juste l'extrapolation, on peut remonter à terre sur 20-30 km. Alors que la réalité, on ne peut pas aller aussi loin. Il n'y a pas assez d'eau pour remplir tout ça. Donc il y a pas mal de propositions, comment faire. Pour les ouvrages aussi, on tient en compte, mais on fait des scénarios de brèche, de ruines généralisées, et aussi on tient en compte qu'on peut être en surélia. C'est-à-dire que c'est un ouvrage. Dès qu'il y a un ouvrage, en fait, il y a danger. Parce que s'il cède, l'on va monter plus vite, etc. Et c'est nouveau aussi, on tient compte de l'élévation du niveau de la mer, liée au changement climatique, dont le guide de 97, on ne tenait pas en compte. Je vais passer plutôt vite sur l'élévation du niveau de la mer, parce que j'ai des slides qui vont des temps géologiques jusqu'à l'actuel. Là, j'avais entrepris de passer des slides sur les dernières 2000 années. Mais en fait, je vais passer assez vite. Hein, je vais me concentrer sur l'actuel. Ça, c'est le niveau moyen sur le XXe siècle, issu des marégraphes. Tous les marégraphes qui ont observé par les marégraphes. Vous les voyez en haut. Donc, si je regarde de 1900 à 2010, en fait, j'ai une pente qui me fait genre 1,7 mm par an. C'est la remontation constatée par le marégraphe. Bon, vous me direz, les marégraphes, ils ne sont pas très bien répartis. C'est plutôt les hémisphères nord. Il y a des phénomènes particuliers ici, notamment à cause des Gulf Stream, par exemple, qui n'ont rien à voir ici. Bon, ça c'est bon. Mais à l'époque, on n'avait pas d'autres moyens que les marégraphes. Ça, ici, depuis l'air, donc, quand on utilise les satellites, on peut aussi mesurer l'élévation du niveau de la mer, avec des pressions assez importantes. Donc, ça, c'est depuis donc, les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Si on regarde cette portion-là, on constate que ça a accéléré. On retrouve 3,2 mm par an. D'accord ? En fait, c'est comme si ça a été accéléré vers la fin, ici. 90, cette partie-là. Et là, c'est mieux parce qu'on a une vue globale de tout le globe, en fait, tous les océans. Juste ici pour vous montrer que quand on parle de chiffres comme ça, il faut faire attention, parce que c'est des chiffres moyens. Mais il y a une très grande variation géographique. Donc ici, on est plutôt dans une élévation de 2 mm par an. Ici, en Méditerranée aussi. Mais au niveau du Pacifique, cette partie-là, on peut être même, c'est le contraire. On est plutôt où ça bouge pas, ou même la mer descend. Ça dépend vraiment de tout ça. Voilà, je vais juste être transparent. Ça, c'est les études qui sont sorties par l'IPCC, ou en français, c'est le GIEC. C'est le groupe d'experts intergouvernemental qui travaille sur le changement climatique. Ça, c'était les versions de 2007, hein, où on avait des valeurs qui allaient entre 0,2 à 0,6, 60 cm pour 2100.
Voilà, ça c'était ça, IPCC. Et ici, en fait, ce qui est marrant, c'est que à l'époque, en 90, les gens ont fait des prévisions de niveau de la mer pour jusqu'en 2010. Et donc, ils ont fait ça. Ça, c'était leur niveau moyen calculé. Mais ils avaient aussi calculé dans leur modèle des valeurs plus extrêmes. Et c'est celle-là, en fait. Vous voyez, là et là. Et en fait, on est plutôt dans les valeurs extrêmes de leur calcul. Donc, l'ONERC, qui est l'organisme français qui a la charge de décider combien on va prendre, combien de centimètres on va prendre en 2100, c'est lui qui décide. Sur la base de toutes les études, il a défini trois hypothèses. L'optimiste, la pessimiste et l'extrême. Et pour trois échéances, 2030, 2050, 2100. Donc pour la pessimiste, ils ont retenu 60 cm pour 2100. Et c'est ce qui est retenu pour les plans de prévention de risques littoraux. Et l'extrême, 1 mètre. Mais on va voir, ça c'était en 2007. Et il y a eu... Bon, et on va voir qu'il y a un nouveau rapport qui est sorti du GIEC donc en septembre 2013. Et ça a été revu, tout ça. Et maintenant, on va vers des valeurs plus fortes. Ça, c'est la courbe aussi, si on est très optimiste. Très, très optimiste. C'est-à-dire qu'on s'arrête dès ce soir de polluer, d'émettre des gaz à effet de serre, etc. Avec l'inertie, ça va augmenter comme ça. Ça, c'est un scénario plutôt réaliste. C'est même pas pessimiste, on continue comme ça, on ne signe toujours pas les conventions à Kyoto, voilà, Cancun, etc. Et là, on peut aller jusqu'à 1 mètre. En fait, et même ils ont donné que ça pouvait monter entre 60 ou 50 et quelques centimètres et 1 mètre. Là, on a 66% de chance que ça aille de là à là. Où se répartissent les 33 autres pourcents? Ça peut être vers le bas, où on est très très optimiste, ou c'est plutôt vers le haut, et là on va vers des scénarios qu'on appelle high-end, qui atteignent 1,50 m. Donc les 33% restants, on a plus de chances peut-être de dépasser le mètre. Ça c'est les toutes dernières donc, valeurs du GIEC. Je finis sur une relocalisation. Juste pour vous parler donc de l'élévation permanente liée au changement climatique en 2100, si on considère 1 mètre, 2 mètres, etc. Et si on considère les niveaux d'eau, des cénaux, plus 1 mètre ou son tenant. Ça, c'est un cas d'exercice, c'est basique. En fait, c'est juste. Ça n'existe pas. Hein, pour illustrer la méthode. À l'actuel, j'ai ma maison ici, à zéro, proche de 0 mètre. Ma submersion décennale était 1 mètre, donc j'ai 10% de chance que l'eau arrive ici. Et la centennale, donc celle-là est toujours à l'abri de la décennale, mais elle n'est pas à l'abri de la centennale parce que j'ai plus de mètres. Voilà. Imaginons maintenant si j'ai 1 mètre d'élévation du niveau de la mer pour 2100. Donc mon niveau d'eau n'est plus là, il est là. Donc là déjà ça disparaît. Et ici, c'est touché, qui était touché avant que par la centennale, maintenant il se trouvera touché par la décennale. Et ces maisons-là qui étaient toujours à l'abri, même de la centennale, maintenant sont touchées par la centennale. Donc ça pose quand même des petits problèmes. Et donc c'est pour ça qu'il y a des stratégies de gestion donc, de trait de côte, en fait. Et ce qui est adapté pour chaque contexte. Par exemple, si je suis dans le haut. Si j'ai peu d'enjeux, une maison, un restaurant, voilà, pas de route, pas de. Voilà, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais rien ou j'achète la maison. Si je suis l'état, j'achète la maison et je laisse faire, quoi, en fait. Et je fais un suivi pour voir comment ça recule ou si ça submerge. Maintenant, si je. Un village de, je sais pas moi, plus important, un village de pêcheurs, ouais, ou. D'autres structures hôtelières, des routes, etc. Je ne peux pas laisser faire, en fait, et je ne peux pas ne rien faire. Parce que s'il y a une route, par exemple, c'est le cas de Sète, la route de Sète littorale, ben, il fallait faire quelque chose. La route, c'est une ou deux fois par an, était submergée, il y avait du sable, etc. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Mais je vais faire du recul stratégique et je vais faire des études pour savoir où je le mets. Mais je fais quelque chose, j'agis. D'accord ? Je relocalise. Admettons ici le troisième cas, j'ai une centrale nucléaire. Donc là, on va défendre coûte que coûte. Même si à mettre des digues de 10 mètres de haut, ce ne sera pas trop joli, on s'en fout, c'est pour centrer parce qu'on ne peut pas bouger. Donc dans ces cas-là, il faut le faire. Parce que les enjeux sont tellement importants qu'il faut agir comme ça. Il y a d'autres secteurs, comme dans les marais maritimes ou dans les estuaires, où en fait la végétation va piéger les sédiments. En fait, ça va s'adapter au niveau de la mer. Même si le niveau de la mer monte de 3 mm par an, les plantes peuvent piéger tout ça. En fait, il y a un équilibre. Et donc là, ici, il faut faire des suivis pour accompagner, pour voir si ça évolue naturellement. Donc, le choix de que faire, qu'est-ce qu'on nous conseille de faire, c'est de faire une analyse coût-bénéfice. Si je ne fais rien, combien je perds d'argent ? C'est parce que je vais perdre ça. Et si j'investis, qu'est-ce que je gagne, en fait ? Il faut faire une analyse coût-bénéfice. Donc ça doit être fait par des économistes. C'est facile à dire, c'est très difficile à faire. Les économistes qui font ça, ils ont beaucoup de mal. Mais voilà, au moins, il y a une trame comme ça, une stratégie de gestion de trait de côte. D'où on appelle ça, c'est la stratégie sans regret. C'est pour réduire les risques actuels. Je ne fais pas de déni, je sais que ça peut arriver, et j'agis en conséquence. Et plus tôt j'agis, mieux c'est. Moi, ça va me coûter cher, pour résumer. D'où, et là c'est pour finir, c'est donc il y a un projet qui couvre 5 territoires, et donc 7 sites d'études, où on est en train d'étudier des relocalisations possibles de sites. Le plus proche d'ici, c'est Lacanau. Je ne sais pas si vous connaissez Lacanau plage. Donc c'est continué comme ça, ça veut dire une île. Donc il y a des parkings sur la dune, il y a un restaurant, le Kayak, etc. À marée haute, il n'y a pas de plage. C'est, voilà, donc là, on se met sous la dune avec la serviette, et ainsi de suite. Donc, actuellement, on réfléchit très sérieusement à des sites pilotes pour faire de la relocalisation, en appliquant cette méthode que je vous ai décrite tout à l'heure. Oui. Stratégique, c'est-à-dire que j'ai fait une étude coût-bénéfice, la route de Sète, parce que ça a eu lieu. Donc, je ne connais pas les montants, mais chaque année, ils devaient dépenser plusieurs centaines de milliers d'euros pour refaire la route. À un moment donné, il n'y a plus d'argent. Donc, je ne peux pas maintenir cette route-là. J'ai plus d'argent. Mais j'ai quand même besoin de cette route-là, parce que ça c'est de la route littorale, donc sur ce secteur-là. Donc, je ne vais pas abandonner la route, que la mer l'emporte. Enfin, si, non, même pas. Non. Là, on a fait des dunes maintenant. Mais je vais laisser cette partie-là. Je vais créer des dunes qui vont me servir en tampon. Et ma route, je vais la faire un peu derrière pour maintenir le trafic. C'est ça, une relocalisation stratégique. Donc là, déjà, il y a eu deux personnes qui sont allées à la tranche sur mer, justement, s'installer. Voilà. Mais là aussi, je vous ai exposé le problème purement objectif de comment ça a été fait. Et c'était une cuvette avec une digue mal dimensionnée. Voilà. À la faute.
C'était clair et net que ce qui avait été étudié, c'était toutes des zones inondables déjà.
Tout à fait.
Sans même parler de Xintia et compagnie.
Oui, tout à fait. Oui.
Parce que c'est sur des anciens marais, quand vous, enfin, si vous avez étudié la zone, vous avez vu comment c'était fait. Il y a plein de marais, il y a plein de zones d'eau, et ça a été fait comme ça. Et ce n'est pas le seul endroit où c'est fait. Donc là, maintenant, tout est rasé, mais on continue à la faute de construire, entre autres. Dose limitée, je sais. Dose limitée. Parce que moi, j'y suis, on construit là où il y a de la place. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, la dune qui a été faite au niveau de la belle Henriette, à mon avis, elle est en train de se creuser.
Oui.
Hein, je peux peut-être me tromper, mais...
Non, vous avez tout à fait raison. Il y avait toutes les tempêtes qu'il y a.
La route que vous avez fait voir tout à l'heure, quand vous parlez de la route de 7, la route de la tranche, à risque encore de sauter, je ne sais pas, d'autant plus qu'on, soi-disant, l'an prochain, on attend le 20 mars 2015, une marée sans précédent, pareil.
Oh bah, déjà, le 1er mars 2014, hein. On est à 116 ou 100...
Moi, ce qui m'étonne, c'est que quand on parle de tout ce qu'il y a à faire, par exemple, à la faute sur mer... Il y a plein de choses qui se sont faites, c'est sûr. Mais avant, il y a quand même des gens qui ont travaillé pour dire non, ici, c'est dangereux. Et moi, ce que j'ai du mal à admettre, c'est que vous, ce que vous dites, ce que vous faites... Moi, j'ai vu une émission, par exemple, sur les Pays-Bas, où carrément, ils demandent à des fermiers en ce moment de... Enfin, c'était l'exemple d'une ferme. Moi, je dis des fermiers, c'est parce que c'est cet exemple que j'ai vu. Où ils achètent aux gens en disant, de toute façon, c'est cuit. On va avoir de l'eau. Donc... on vous indemnise, on vous trouve des terrains, etc. Mais il ne faut pas rester là. Donc après, je ne sais pas pour la faute, etc. Parce que
c'est les zones de solidarité.
La faute, c'est une dune, hein, c'est un courant.
C'est une cuvette qui est entre la dune et le lait, avec protégé par une digue.
La pointe s'agrandit du côté de la forêt. Mm-hmm. Par contre, ça creuse au niveau de la tranche et tout ça. Mais ça fait des années que, que les courants sont comme ça. Donc là, c'est accentué. Mais quand même, ce qui est complètement déplorable, et quand vous voyez les autres études de Xintia, moi j'ai lu des bouquins, les zones qui sont à chaque fois confrontées à la tempête sont pratiquement les mêmes, Étrée, les Boucholeurs.
Étrée, c'est notre piège, évidemment. Oui, il y a eu deux morts.
Ce qu'il y a, c'est qu'on a quand même réussi à faire des maisons en bordure. Donc voilà. Après,
comment ? Oui.
Non, mais moi, je suis très content d'y aller. Je suis très content d'avoir passé mon temps là-bas. Mais c'est vrai que maintenant, c'est pour les gens, ça devient compliqué parce que zone rouge, ça veut dire que dans les maisons, il faut se protéger, qu'il ne faut plus faire de murs pour faire évacuer l'eau, qu'il faut plus de volets roulants, comme vous dites, etc. etc. Mais c'est surtout que quand il y a du vent maintenant, les gens pensent quand même, parce que 29 morts, ça a quand même marqué un village. Parce que c'est quand même un village l'hiver. Donc voilà, mais pourquoi toutes les études qui sont faites ne servent à rien ? Moi, je veux dire, très peu.
Si, non.
C'est bien beau de montrer l'historique, mais quel est l'avenir ?
Mais l'avenir, c'est ça, alors, en fait. On est en train de travailler sur des sites pilotes. Ça, c'est justement, on teste les méthodes de relocalisation sur des environnements très différents. Parce que ce n'est pas simple de dire « je relocalise ». Il y a toute une vie. Mais oui, sinon, si c'était simple, on le referait, hein, parce qu'on n'est pas maso ici, je pense. Ça serait réglé depuis longtemps. Le problème, c'est que c'est des humains qui ont des intérêts, qui sont attachés à leur territoire, etc. Et donc, il y a une politique donc, nationale. Et après, les PPRI doivent être acceptés par les maires. Donc, voilà, municipal. Donc, il y a des conflits d'intérêts. Tout ça, tout le monde voit les pieds dans l'eau, mais sont trop mouillés ou se mouiller quand on veut, quand il fait beau, etc. Mais c'est compliqué tout ça. C'est des débats pour en finir. Donc concrètement, je vous ai donné ce qui a été fait depuis. Et là, c'est une espèce de laboratoire. On prend des sites un peu différents. Même il y a un site en Guadeloupe. Et on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Après, mais non, c'est pas au moment où ça commence, ça a débuté le 14 février 2013.
Excusez-moi, quelle période de retour on se donne sur l'avenir de ces sites pilotes-là, ces sites de relocalisation ? Est-ce qu'on se donne une durée d'études
Ouais, en fait,
relativement pour... courte, parce que si c'est encore pour prendre 5 ans de plus.
Non. On se donne au moins, on travaille sur en tenant compte des périodes de retour sans tenant et en tenant compte du changement climatique. Donc plus 60 ans, plus 60 cm pour Alora 2100. Voilà.
Actuellement, le discours de l'État, il est clair hein, dans ces zones-là. C'est les zones où clairement il y a des risques. En gros, on les rend à la nature.
C'est pas aussi évident parce qu'on les rend à la nature, mais si c'est un village de pêcheurs, ce que on va pas dire aux pêcheurs, vous partez de là, on vous a trouvé des maisons à 15 km, des beaux apparts avec un parking, ça va pas. Donc il faut trouver d'autres sites.
On n'en est pas là encore dans la réflexion sur ce qu'on fait des gens qui habitent sur place. Pour l'instant, on parle des espaces qui sont encore relativement naturels, qu'on peut rendre plus facilement à la nature. Oui. Ces espaces construits, l'État n'en est pas encore là. Ou alors, il ménage un peu tout le monde autour de lui, parce que ce n'est pas ce qui se dit au jour d'aujourd'hui.
Sur ces points-là, on peut débattre. Mais en plus, je ne suis pas le mieux placé pour ça. Je suis qu'un scientifique. Je ne sais pas. Vous roulez dans une voiture, vous aimez dépenser moins d'argent. Pourquoi vous dépensez moins d'argent dans une voiture? C'est plus léger, c'est des matériaux plus légers. Vous consommez moins d'essence, vous polluez moins. Ça, c'est la recherche. Vous pouvez passer d'un endroit à l'autre avant, c'est grâce à des bateaux, ça, c'est des avions, et ainsi de suite. Sans la recherche, on ferait quoi?
Oui, juste pour...
Moi, je suis en train de réfléchir à tous les événements climatiques qui arrivent en ce moment. Donc, il y a quand même des zones submersibles un peu partout. Des zones inondées. Je reviens sur les expropriations parce que je suis concernée directement puisque nous habitons la pointe de l'Aiguillon-sur-Mer. Nous sommes en zone noire d'expropriation et c'est quelque chose qui ne passe pas parce qu'à l'époque actuelle, puisqu'il y a le PPRL, il y a des plans communaux de sauvegarde, des systèmes d'alerte, prévimaires, etc. Je pense qu'on pourrait laisser les habitants, comme vous avez dit, c'était des êtres humains pour la relocalisation. Nous aussi, on est des êtres humains.
Oui.
Et je pense qu'il faudrait nous écouter de temps en temps et nous laisser un petit peu nos maisons. Parce que c'est du gaspillage d'argent, d'exproprier les gens. Hein, ça, on le sait, sur la faute ou ailleurs. C'est du gaspillage d'argent, alors que l'argent ferait mieux d'être conservé pour les protections. Il faut protéger... Avant d'exproprier, je pense que c'est très important.
Non, mais c'est justement, là, on essaie de ne pas faire des choses à l'aveugle. Donc, ce que j'ai dit, c'est ça. C'est les stratégies sont regret. Donc, on fait une analyse. Combien ça coûte pour refaire les digues, l'entretenir, pour protéger tant de maisons? Qui paye? Qui paye les digues? Oui, oui, de l'autre côté, les digues de l'autre côté.
Alors, ce que l'on nous fait ressortir aujourd'hui, c'est que quand on nous a mis en zone noire, il y a des gens qui ont vendu, donc il y a eu un coût d'expropriation, d'acquisition à l'amiable, excusez-moi, je cherchais le nom. Et aujourd'hui, nous sommes une soixantaine à vouloir rester. Maintenant, on fait un rapport coût-bénéfice, effectivement. On remet à nouveau le coût des protections sur la pointe de l'Aiguillon pour nous et les autres bourgs, parce qu'il y a des maisons qui ne sont pas inondées quand même, on est plus haut dans le bourg, certains, et on nous met qu'en face que le coût des expropriations de ceux qui restent. Ce n'est pas logique quand même. Il y a eu plein d'acquisitions à l'amiable, et aujourd'hui, monsieur le préfet nous a écrit cette semaine, on va mettre que le coût des expropriations de peu de personnes qui restent en face des coûts des protections pour tout le monde. Alors moi, le raisonnement, là, je ne le comprends pas bien.
Oui, ça, je ne suis pas l'État, je sais justement, que ça pose toujours des problèmes.
Monsieur Prédéros n'est pas le préfet de Charente-Maritime, il n'est pas le préfet de Vendée. Moi, malheureusement, je ne suis pas propriétaire d'une maison à la Tranche, à la Faute, dans l'île d'Oléron, même si j'aime beaucoup. On a ce soir un spécialiste, un scientifique qui est venu nous expliquer ce qui s'est fait et nous indiquer aussi qu'il y a plein de travaux, on a vu quelques livres, là. Mais déjà, il y a eu plein de travaux faits par des universitaires, dont un ouvrage va sortir la semaine prochaine, au cours de 2 semaines, fait par Jacques Perry, historien de Poitiers, sur Cynthia. Il y a eu un colloque organisé par la région Poitou-Charente en juin, remarquable, en juin 2010, et les actes de ce colloque-là vont sortir. Il y a une maison des éditions qui s'appelle Le Croix Vif, qui a fait plein de travaux, peut-être que vous avez collaboré avec plein d'universitaires là-dessus pour comprendre le phénomène. Et puis à côté de ça, on a des gens qui se préoccupent, je dirais, pas uniquement de leur cas, c'est important de défendre sa maison. Je suis en zone inondable du Clain, donc c'est pas la faute, mais ma maison a été inondée plusieurs fois déjà en 2 siècles. Il y a eu peut-être 40 ans. Donc tout le monde est préoccupé par rapport à ça. Mais ce soir, on a un débat scientifique pour comprendre. Et à la fin, de façon discrète et légère, monsieur nous a montré que si la mer monte globalement, une tempête comme ça, qui a eu lieu la dernière fois, c'était en 1841, 37, se produira encore plus souvent. Parce que, pour aller là-bas, comme moi, enfin quoi que je suis de vélo, il y a des voitures et tout, et puis ça s'appelle l'augmentation des gaz à effet de serre. Et ça s'appelle le changement climatique. Et là, il y a des travaux aussi, que je cite chez les ouvrages-là. Vous avez tous ces travaux-là qui sont référencés dans la remarquable revue de l'actualité de l'espace Mendès France. Vous le trouverez là-haut, hein, vous trouverez même le site internet, vous savez tout. Et ce soir, on a un débat qui nous dit, voilà, ces phénomènes-là ne sont pas exceptionnels, ils se sont déjà produits, des historiens ont travaillé là-dessus, et peut-être comment prévoir. Mais déjà, si on prend conscience de ce fait-là, que ce n'est pas exceptionnel, on évitera d'accuser le représentant du préfet là, et de l'État, M. Prenéros, hein. Il n'y a rien à voir avec le préfet, rien à voir avec l'État, rien à voir avec le maire de la flotte. On ne réglera pas les problèmes particuliers ici, ce soir. C'est beaucoup plus compliqué et ça peut se faire, mais il y a une prise de conscience qui se fait, il y a des travaux qui se font, et on aurait pu simplement, si on avait respecté un peu plus le code d'urbanisme, éviter qu'il y ait quelques dizaines de morts. C'est eux les principales victimes. Je crois qu'on a un travail. Je vous remercie pour la qualité de votre travail. Lié à l'expo de Mendès France, lié donc, je dis, aux remarquables articles dans l'actualité qui expliquent tout ça, mais on ne réglera pas le cas de la maison de Pierre Polsac, parce que le phénomène est beaucoup plus grave. Le phénomène est beaucoup plus grave. Quelques mètres de plus pour nous, c'est grave, c'est 49 morts. Au Bangladesh, c'est des centaines de milliers de morts. Le réchauffement climatique n'est plus une utopie. Vous n'avez pas une semaine sans que, dans le sud-ouest, quand on quotidien, l'Ouest, qui est un peu pas trop loin de chez nous, explique que ces phénomènes-là ne sont pas exceptionnels, mais leur recrudescence, leur fréquence est liée à un phénomène global, le changement climatique. Et l'espace Mendès France travaille là-dessus, puisque le 24 mai, je crois, il va y avoir une conférence ici et à la région sur le changement climatique. Tout le monde s'en fout. Parce que dans les universités, je disais tout à l'heure, il montre qu'il y a 3 temps. Premier temps, l'inondation. Aussitôt, il faut être là avec un sac de riz sur l'épaule pour dire on vous aide, on vous aime. Au bout de quelques semaines, on met à la rigueur un peu de sable comme à Biarritz. La prochaine marée enlève tout. Au bout de quelques années, Cynthia, 2009-2010, la tempête d'avant, c'est 10 ans avant, on n'a rien fait. 30 ans après, on n'a rien fait, puis après on oublie. Eh bien, je crois qu'il ne faut pas oublier, mais pour pouvoir laisser, je dirais, un littoral vivant pour nos enfants, nos petits-enfants, il faut tenir compte de l'histoire, tenir compte des scientifiques et voir comment on réglera le problème particulier des futures victimes. J'espère qu'elles ne seront pas, elles seront victimes par leur terrain et comment on pourra aménager tout en respectant ce que ne peut pas faire la nature et en évitant peut-être que le changement climatique soit aussi important que prévu.
En limitant les dégâts. En fait, on ne peut pas limiter l'élévation de niveau du changement climatique.
En décembre 2015, après Rio qui n'a rien donné, 2012, Copenhague qui n'a pas donné grand-chose, 2009, tout sera à Paris. Et peut-être que les politiques, là, qu'on pourra interpeller aussi, pourront décider.
Frédéric
Rose qui va peut-être régler
tout ça. Non, mais bon. Là, aujourd'hui, on a débattu. En fait, on a parlé. J'ai beaucoup parlé. Non. J'ai beaucoup. Non, j'ai juste exposé. Je vous ai exposé ce que l'on sait et. Bien sûr. C'est le. Non. En fait, on se retrouve. Votre cas, vous n'êtes pas isolé. On se retrouve. À chaque fois qu'on...
Nous sommes en première ligne de ce heurtement.
Oui, oui. Donc c'est pour ça qu'il y a, il faut, en fait, c'est un problème de communication entre l'État, les scientifiques, les communautés, les municipalités, les habitants. C'est un dialogue. C'est ça. Et on manque de dialogue. On a un peu de déni aussi. On oublie la perception du risque, mais il faut raviver et il faut dialoguer. Non, mais c'est pour ça. La méthode, il y a un problème de méthode. Par exemple, des choses comme ça se font au Québec. Il y a des histoires à Saint-Laurent. Il y a des avec le remontée du niveau de la mer. Il y a des soucis. Mais là, ce sont des scientifiques qui se déplacent, expliquer aux gens, mais qui reviennent plusieurs fois dans l'année. Et ils discutent, ils expliquent bien, et ils ironisent tout le monde. Et c'est pour communiquer. Voilà. Et c'est le gros problème qu'on voit, parce que qu'est-ce que vous voulez que nous, on l'a vu pour les tsunamis, quand on s'est arasé. Et donc, on dit, ah, il ne faut plus construire, etc. Et là, c'est des pêcheurs. Mais un mois après, ils reviennent. C'est normal, ils doivent vivre de la pêche. Mais comment faire, en fait? Comment faire pour dire c'est dangereux? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, voilà, donc on va les voir. Et donc, qu'est-ce qu'on leur dit, par exemple? Voilà, on va faire une relocalisation temporaire. C'est-à-dire que si vous vous installez des maisons en bois, en tôle, qui ne coûtent pas cher, vous mettez votre matériel là, votre bateau là, et vous dormez ailleurs. Vous dormez ailleurs. Voilà, et comme ça, vous avez votre matériel de pêche, etc. Mais voilà, c'est une solution, c'est une relocation temporaire diurne, on va dire. Oui, juste au monsieur là, parce que.
Vous avez montré une courbe montant l'augmentation du niveau de la mer pendant quelques années. Est-ce que c'est lié au réchauffement climatique ? Alors, qu'est-ce qui se passe, puisqu'on sait que depuis, le GIEC l'a reconnu lui-même, que depuis une quinzaine d'années, on est ce qu'on appelle dans une pause, c'est-à-dire que la température n'a pratiquement pas augmenté. Ça veut dire que si elle avait augmenté, ça aurait monté encore plus, ou quoi ?
Ça, ça a été expliqué, en fait, récemment, hein, dans un article de Nature, c'était lié à une circulation océanique, voilà, qui était temporairement, c'est elle qui absorbait une partie de la chaleur, en fait. Et on arrive à le montrer pourquoi, mais ça va pas, c'est une pause, ça va repartir. Ah oui. Ah oui, si vous voulez, c'est ce qui est compliqué. Les plus grandes incertitudes actuellement sur la modélisation de l'élévation du niveau de la mer, ça tient de la fonte des glaciers. Actuellement, en fait, il y a deux paramètres importants qui expliquent pourquoi l'eau monte. C'est la température de l'eau monte. Donc, il y a une dilatation thermique de l'océan, donc ça prend plus de volume. Et actuellement, ça, c'est le paramètre le plus important. Après, en second ordre, c'est la fonte des calottes glaciaires et des glaciers. Mais ça, la fonte d'une calotte glaciaire, c'est quelque chose qui est très compliqué à modéliser. En fait. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas linéaire. Ça ne fond pas régulièrement, hein, pas constant. Je ne sais pas si vous avez un glaçon dans votre verre. À un moment donné, il est là et vous le voyez diminuer, tout est dit, et à un moment, il disparaît. Donc, ce qu'on sait, c'est que la fonte, donc cette eau douce, cet apport en mer, va être de plus en plus important à partir de 2030-2040. Mais on ne sait pas exactement comment ça va fondre. C'est pour ça que l'élévation du niveau de la mer n'est pas linéaire comme ça, actuelle, 2100, j'ai un mètre, c'est pas comme ça. C'est jusqu'à 2030, c'est comme ça, et après, j'accélère. Voilà, et donc ça va augmenter, oui. Et même si actuellement les prévisions pour 2200, 2300, on est parti pour 2 mètres, 3 mètres. Même si on a arrêté d'émettre les gaz à effet de serre.
Ça va peut-être s'accélérer. Regardez les grandes casquettes en Méditerranée, comment elle a été envahie par la flotte.
Alors, moi, il y a quelque chose, ça n'a rien à voir, c'est plutôt par rapport à l'historique. Il y a des choses que j'ai du mal à comprendre quand on parle aujourd'hui du niveau de l'augmentation de la mer. Bah, par exemple, pour citer la faute, si vous êtes passé, il y avait un port à Luçon qui a été bouché, qui est maintenant c'est un parking. Chez nous, il y a comment ça s'appelle, Brouage, je crois. Avant, on nous parle de tous ces bateaux qui étaient là, etc. Donc moi, ce que j'ai du mal à comprendre. Alors là, j'ai une vieille carte. Alors je ne sais pas si c'est véridique ou pas. C'est l'ancien Picton. l'ancien golfe du Picton.
Et oui,
quand,
oui, oui.
Quand on regarde, oui. ça correspond sur les parties qui sont des îles, en fait, à ce que vous aviez fait, enfin, ce qui avait été fait à Madès France, j'avais vu ça,
oui.
Correspondant à, ils avaient fait une étude du niveau de la mer. Oui. Et en fait, ça revient à cette carte qui existait avant. Donc, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment, il y a des années, il y avait des ports qui étaient à l'intérieur des terres, et comment, aujourd'hui, on peut dire, c'est comme si la mer revenait, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais...
Je n'ai pas l'image ici, mais il est dans ce bouquin-là. C'est tout simplement, c'est grâce à nos amis hollandais, ça s'appelle la polderisation. C'est je gagne la terre en mer, donc en faisant rentrer l'eau, je ferme et j'attends que ça sédimente. Et je comble, je gagne. Donc ils ont fait ça ici. Donc on a même des dates, des différents fronts, comment ça a été construit. Et ça, c'est anthropique. C'est aussi l'histoire de la Gironde, il y en a plein. Donc ce sont des Hollandais qui sont venus nous montrer comment fallait faire. Et donc ça, c'est... Voilà.
Ce que vous dites, c'est que l'homme qui a travaillé pour regagner sur la mer.
Oui,
que ça soit au niveau de la Vendée, que ça soit au niveau de la Charente, c'est que des travaux comme ça.
Oui, sur ce secteur-là, oui, parce qu'il s'est prêt. Il s'est prêt parce qu'il n'y a pas beaucoup de dynamique. C'est un secteur calme où il y a de l'eau qui est chargée en particules fines, et donc ça peut sédimenter. Il y a les plantes aussi en fait, qui vont piéger tout ça. Oui, oui, c'est assez connu en fait. Cela. Et donc il y a dans le bouquin, je ne sais plus le début. C'est sur F5. C'est sur celui-là. Là, vous allez retrouver l'historique de quand chaque polder a été fait. La progression. Je ne l'ai pas mis ce soir. Oui, oui.
C'est que globalement, si on refait l'histoire géologique, mais ancienne, en fait, on est en période effectivement post-glaciaire. Donc, il faut voir que la période glaciaire, la dernière, c'était il y a à peu près 17 000 ans. Et depuis à peu près 10 000 ans, la mer remonte, effectivement. Et il y a eu un paradoxe. Enfin, il y a à peu près 6 000 ans, 7 000 ans, la mer était pratiquement à Niort. Et depuis, en fait, c'est un équilibre entre l'arrivée des sédiments, donc la sédimentation, et puis l'avancée la montée du niveau de la mer. Et actuellement, on est plutôt en phénomène de régression. Et le problème, c'est que le problème de la transgression, de la remontée du niveau de la mer, va être de plus en plus important et ça va s'accélérer. Mais on est dans un phénomène transgressif depuis à peu près une dizaine de milliers d'années. Donc un chiffre, c'est qu'il y a à peu près 12 000 ans, on était 100 mètres plus bas que le niveau actuel. C'est-à-dire qu'on trouve sur le plateau continental des traces de villages romains, gallo-romains, du côté de Soulac, notamment sur la côte girondine. Donc tout ça, c'est un équilibre entre emport de sédiments et puis remonter le niveau de la mer. Donc c'est pas si simple que ça.
J'avais une transparente. Montrant ça, justement, entre. Plus courte, hein. On l'a vu ici. Ah, ça, c'était vraiment quand on regarde l'histoire, il y a toujours certaines milliers d'années. Ici, glaciaire par glaciaire, c'est compliqué. Quand on est juste là, on est à 120 mètres plus bas. Mais là,
Donc, la mer était à 18 000 ans, il était 120 mètres plus bas. Et là, on est remonté donc, à différents paliers. Et il y a des courbes plus précises encore. Il y a les petits âges glaciaires, des choses comme ça, vous avez entendu parler, peut-être. Donc, on les situe par ici. Par exemple, là, il y a deux périodes comme ça, où ça a remonté plus vite. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais montrer ? Non, c'est tout. Voilà, je voulais juste finir. Non. On peut continuer à discuter, si vous voulez. C'est juste pour montrer que ce qu'on peut maintenant arriver à calculer, à modéliser, même le franchissement de paquets de mer. Jusqu'à maintenant, on faisait par des formules paramétriques avec des limites très importantes. Maintenant, on arrive à le faire avec des modèles de façon très réaliste. On voit chacune des vagues, comment ça rentre. Ici, ça, c'est à Gavre, dans le Morbihan, en fait, c'est la presqu'île de Gavre. Donc, ça rentre par des secteurs préférentiellement, ça coule dans les rues, ça vient donc inonder les zones basses, choses comme ça. Et on arrive à bien voir, en fait, ce qui est important, c'est que ce qui se passe vraiment lors de la tempête. On a bien réussi. Donc, on voit que on avait une observation ici. La personne nous a dit que l'eau est arrivée d'abord par ici et après par ici. Et on a la chronologie. Donc, voilà. Et là aussi, la digue a cédé ici. Donc, du coup, il y a pas mal d'eau qui est rentrée. Et après, vous voyez, ça, c'est des plans inclinés. C'est l'hélical pour les bateaux. Il n'y avait pas des bâtards d'eau. Donc, l'eau rentre. C'est des choses aussi simples, des fois, à faire. Voilà ce que c'est fait le plus évolué en recherche. Ce n'est pas du tout dans les modèles de prévision encore pour calculer la submersion marine. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Sinon, on va finir. Il est tard. Moi, ça va. Je dors ici cette nuit. Oui, encore.
Je voulais juste savoir. On vous remercie beaucoup. Je voulais juste savoir s'il y avait du matériel sur Internet ou si vos transparents étaient disponibles quelque part. Ou...
Je laisse les transparents, le PDF, ici, à Espace Mendes France. Et donc, vous pouvez télécharger. Et après, vous trouverez, vous tapez Submersion Bergem ou Submersion Petreros. Vous allez trouver sur Google pas mal de présentations, ou des rapports, ou des articles sur tout ça.
Merci beaucoup.